Bonjour à tous. On est en train de se transformer en un peuple masqué. Et c'est assez étonnant de voir tout le monde comme ça avec le masque. L'expression, on ne peut le voir que dans les yeux. En réalité, l'expression se voit dans un visage complet. On dit que c'est le reflet de l'âme. Et c'est vrai que de parler devant un public où il n'y a que les yeux, c'est un peu déstabilisant. Alors d'abord, bonjour à tous. Bon, il y en a certains que je connais, il y en a que je ne reconnais pas à cause des masques, justement, mais tout à l'heure, je pense que ce sera peut-être plus facile à l'extérieur. Bon, je ne vous apprends rien que depuis un peu plus de 3 mois, on vit des temps un petit peu compliqués. Compliqué à cause de ce virus, donc un temps d'abord de confinement, ensuite un temps de déconfinement dans lequel nous sommes, et un temps finalement dans lequel on ne sait pas vers où on se dirige, parce qu'il y en a qui parlent de recrudescence du virus, d'autres qui disent non, c'est terminé. Voilà, donc c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être compliqué. Pour certaines personnes, de vivre dans cette incertitude, ça peut être compliqué. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous partager avec vous ce matin, avec une question. D'ailleurs, il y aura beaucoup de questions dans ce message que j'essaierai de développer, auxquelles j'essaierai de donner une réponse. Pourquoi y a-t-il des maladies ? Alors, pour ce message, je me suis un petit peu inspiré d'une étude qui a été faite par un pasteur qui s'appelle Timothée Minard, un pasteur baptiste, qui est un théologien. Il est parti il y a maintenant. Il était à Saint-Étienne d'ailleurs. Il est parti il y a 3 ans à Madagascar pour enseigner dans une université de théologie. Et il fait des études bibliques que l'on peut voir sur Internet. Et c'était sur ce thème. Alors je m'en suis un petit peu inspiré. Bien sûr, je l'ai mis à ma sauce parce que j'aime pas faire du copier-coller quand même. Je pense que c'est important aussi de pouvoir dire ce que nous, on pense. Alors peut-être qu'elle sera présentée un peu sous forme d'études bibliques, finalement, cette prédication. Alors, la première question, c'est est-ce que la maladie est une conséquence du péché ? Je suppose quand même que certains d'entre vous se sont posé la question. Moi, je l'ai déjà entendu dans diverses églises où, parfois, la personne disait « Ah, mais t'es malade, mais qu'est-ce que tu as fait pour être malade ? Quel était ton péché pour que tu sois malade ?» Alors, c'est vrai que, comme toutes les guerres, l'exploitation à outrance des ressources naturelles, que ce soit les catastrophes industrielles ou naturelles, que ce soit les meurtres, que ce soit les trafics de drogue, etc., etc. La maladie, en fait, nous ramène à la Genèse. Toutes les calamités que l'humanité a subies depuis que Dieu l'a créée résultent de la désobéissance des premiers hommes envers leur créateur. Au départ, il y avait une parfaite harmonie entre les humains et la nature qui les entourait. On voit ça dans Genèse, au chapitre 2, verset 15, il est dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin, en Éden, pour le cultiver et le garder. » Ça fonctionnait d'ailleurs parfaitement, puisque il était, on peut le supposer, en relation constante avec son Dieu. Et il est probable que, durant leurs échanges, Dieu peut-être leur donnait des conseils pour gérer cette nature qui était autour d'eux. Alors bien sûr, il y a un autre verset dont la traduction est un petit peu ambiguë et qui se trouve au chapitre 1, verset 26, et qui dit ceci, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. etc. » Alors c'est vrai que le verbe « dominer » peut prêter à confusion et suggérer que l'on doit assujettir la nature qui nous entoure, et d'une façon plutôt tyrannique. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait ça que le Seigneur voulait. En fait, le verbe hébreu nous dit tout simplement que l'être humain est supérieur et différent de ce qui, de tout le reste de la nature, et suggère plutôt l'idée d'une responsabilité, d'une charge confiée par Dieu. La désobéissance des premiers hommes a eu pour effet de placer loin l'homme de la présence de Dieu. Puis au chapitre 3, verset 22, il est dit qu'en refusant de dépendre de leur Créateur, ils ont été condamnés à errer non seulement loin de l'arbre de vie, mais en même temps de la présence de Dieu. Apocalypse 22, 2 dit que cet arbre de vie produit des feuilles servant à la guérison. Dans Genèse, au chapitre 3, versets 16 à 19, il est dit que le péché a eu pour conséquence la souffrance, la malédiction de la terre, la pénibilité du travail et, pour terminer, la mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul le confirme dans son verset, le chapitre 6 de Romains, au verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Timothée Minard dit dans son étude « La mort est toujours le résultat d'un dysfonctionnement du corps humain, que ce soit progressif, comme la maladie, ou soudain, comme les accidents, les meurtres. » Certains passages laissent penser que la maladie d'une personne peut être la conséquence de son propre péché. Alors, Jacques dit dans le chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La plupart du temps, c'est le comportement des personnes, bien entendu, qui les mettent en danger. L'excès d'alcool, le tabac, la drogue, la mauvaise hygiène physique ou alimentaire, des sports extrêmes. Parfois, on voit sur Internet des jeunes qui se mettent dans des situations périlleuses. Et effectivement, s'ils ratent leur coup, ils peuvent se tuer. On en voit suffisamment et c'est un petit peu dommage. Il y a suffisamment de situations complexes et dangereuses dans lesquelles les hommes se mettent volontairement ou involontairement en danger. Bon, je ferme la parenthèse. Il y a quelques cas aussi dans la Bible où Dieu a porté un jugement en envoyant une maladie à une personne précise, comme par exemple lorsque Myriam et Aaron ont murmuré contre Moïse. Il est dit dans Nombre, chapitre 12, versets 9 et 10, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. » Et un peu plus loin, il est dit « Et voici que Myriam fut frappée d'une lèpre. » De même qu'Ozias. Ozias qui, par son infidélité, s'est permis de brûler des parfums à la place des sacrificateurs et qui lui aussi a attrapé la lèpre, et ça jusqu'à la fin de sa vie. Là, on voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 26. On a aussi l'exemple d'Élimas dans les Actes, au chapitre 13. À l'inverse, il y a une multitude d'exemples où Jésus, ému de compassion, guérissait bien sûr les malades. Et il y a aussi le cas de l'aveugle guéri par Jésus dans le Jean, chapitre 9, verset 1, dans lequel les disciples posent la question à Jésus, « Qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus qui répond, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. » Et puis, il y a ce passage aussi dans Job, au chapitre 42, où Dieu réprimande Eliphaz et ses deux amis pour avoir suggéré que Job avait été malade à cause de son péché. Ces textes, donc, nous invitent aussi à être prudents sur des jugements que nous pourrions porter sur une personne malade. Parce que la maladie n'est pas toujours, et même rarement, une conséquence directe du péché. Alors on a des exemples de personnes que vous avez connues. C'est pour ça qu'on peut quand même éviter de porter des jugements gratuits et faciles. Je pense entre autres à Jean-Marc Taubois, que beaucoup d'entre vous connaissez, et qui est décédé du Covid. Alors c'est vrai qu'il avait une santé fragile, mais malgré tout, il l'a attrapé. Il y a aussi Samuel Peter Schmitt, le pasteur de Mulhouse, qui a aussi attrapé le Covid. Et quand on voit la vidéo qu'il a mise sur Internet, c'est quand même impressionnant de voir comment il était fatigué, comment la maladie l'avait éprouvé. Est-ce qu'on peut porter un jugement en disant qu'il avait péché pour attraper le Covid? Moi, j'ai un autre exemple, c'est Charles-Édouard Péter Comtès, qui était notre pasteur à Paris, à Charot et moi-même, et j'ai eu beaucoup de peine d'apprendre aussi son décès, parce qu'il était à Mulhouse aussi. Il avait 88 ans, il était très fragile aussi de santé. Et voilà, il est décédé aussi. Alors la deuxième question, est-ce que le diable a un rôle dans la maladie? Alors, même si la maladie, bien entendu, est une conséquence du péché des premiers hommes, il y a beaucoup de passages qui expliquent que Satan a une part de responsabilité dans la maladie. Même si Genèse 3 explique que l'être humain, bien entendu, est pleinement responsable de ses actes, il dit aussi que Satan a tenté et entraîné les humains vers le péché et la mort. On ne va pas relire tous les textes, mais vous les connaissez. C'est lui qui a frappé Job de maladie, on voit ça dans Job 2, verset 7, même s'il a pu le faire parce que Dieu l'a permis. On voit ça dans les versets qui précèdent. On constate aussi dans les évangiles, et entre autres ceux de Matthieu et dans Luc, qu'il est parfois difficile de distinguer entre ce qui est de l'ordre du démoniaque et de la maladie. Parfois, Jésus guérissait un malade en chassant un démon. On voit ça dans Matthieu 22, 12. On lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Il y a l'exemple aussi au chapitre 15 de la femme cananéenne qui a demandé à Jésus, bien sûr, de sauver sa fille qui était tourmentée par un démon. Et Jésus l'a guéri. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a, en fait, comme on le constate, parfois un lien étroit entre la maladie et la possession. Moi-même, je travaille, je suis aumônier donc, au CHU de Saint-Étienne, en psychiatrie, et parfois, quand on parle entre aumôniers, quand on parle d'une personne en particulier, qu'on évoque un peu son cas, il est évident que le malin, parfois, n'est pas très loin. Il n'y a pas que des maladies physiologiques. De toute façon, la parole de Dieu explique que le diable est l'instigateur du péché, dont l'être humain, bien entendu, est le principal responsable de la maladie et de la mort. Dans les Actes, au chapitre 10, verset 38, lorsque Pierre parle avec le centurion Corneille, il lui raconte que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc il n'est jamais très loin. La troisième question, c'est les épidémies sont-elles un signe de jugement de Dieu? Alors incontestablement, les textes bibliques présentent les épidémies comme des manifestations du jugement de Dieu. À l'intérieur de la loi mosaïque, les épidémies sont indissociables des malédictions divines qui sont liées à la rupture de l'Alliance. On voit ça dans Lévitique 26. On retrouve le jugement de Dieu aussi, bien sûr, sur le peuple d'Israël dans beaucoup de passages. 1 Roi 8, 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7, aussi dans les prophéties. Jérémie 2, Ézéchiel 5, etc., etc. Ces manifestations étaient des châtiments qui invitaient les Israélites à changer d'attitude et à se tourner vers le seul vrai Dieu. Alors bien sûr, les épidémies étaient aussi un moyen que Dieu utilisait pour manifester son jugement envers les nations païennes. Les 10 plaies d'Égypte sont aussi l'exemple type du jugement de Dieu. Et parmi lesquelles, d'ailleurs, Dieu envoya une épidémie qui tue les animaux qui sont dans les champs. On voit ça dans Exode 9, ou encore des ulcères. Mais il y a aussi des personnages. Dans 1 Samuel 5, c'est les Philistins. Dans 2 Rois 19, ce sont les Assyriens qui furent frappés par l'ange de l'Éternel. Et puis, il y a la prophétie de la fin des temps qui précédera le royaume. Ça nous est dit dans Zacharie, au chapitre 14. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Et il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Dans Apocalypse 6, Apocalypse 8, Apocalypse 16, chapitre 18, il est parlé de catastrophes qui tueront un nombre incalculable de personnes. Au chapitre 20, il est dit que personne ne pourra échapper au jugement de Dieu. Même les rois, les présidents sont condamnés à rester cachés, comme déclare le chapitre 6, verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Ils sont en quelque sorte confinés, ça ne vous rappelle rien. Les croyants sont-ils épargnés par les épidémies? L'exemple que je vous ai donné semble montrer, non pas le contraire, mais que ce n'est pas forcément évident. Alors bien sûr, étant au bénéfice de la grâce, on pourrait s'attendre à ce que les croyants soient épargnés. Il y a le psaume 91 qui, par exemple, parle de la protection du Très-Haut pour celui qui place sa confiance en lui. On voit ça au verset 6, il est dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à son côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Lorsque Dieu envoya les 10 plaies sur l'Égypte, il fut attentif à ce que les Israélites, bien entendu, soient épargnés. De même, dans l'Apocalypse, certains fléaux sont envoyés uniquement sur ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. On voit ça dans Apocalypse 9, verset 4. Par contre, elle tombe sur ceux qui ont la marque de la bête. Apocalypse 16, verset 2. Et pourtant, certains passages montrent que les épidémies que Dieu envoie pour punir son peuple qui a rompu l'alliance ne semblent pas faire forcément distinction entre ceux qui sont idolâtres et ceux qui sont restés fidèles. Vous allez me dire, mais pourquoi ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand même. Il y a une certaine logique à cela. Parce que nous-mêmes, en tant que croyants, nous méritons le jugement de Dieu. Si nous échappons au jugement de Dieu, c'est seulement par grâce. Encore aujourd'hui, il y a des chrétiens malades. Parce que nous subissons les conséquences du péché originel. Depuis que Jésus est venu sur terre, combien de chrétiens ont été malades ? Est-ce que vous connaissez un chrétien depuis 2000 ans qui n'est pas mort ? Tout le monde est mort. Et nous aussi, nous mourrons. Le but premier de la venue du Christ sur terre n'était pas de guérir les malades, contrairement à ce que beaucoup croient, mais de donner le salut à tous ceux qui croiraient. Ça, c'est le but premier. Alors, il y a cette histoire étonnante du paralytique qu'on amène à Jésus dans Matthieu 9, verset 2. Jésus lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, vous savez, on l'amène sur un lit, donc ça veut dire qu'il devait être quand même gravement malade. Vous voyez, il ne pouvait même pas se déplacer, il fallait le transporter sur un lit. Donc il était gravement malade. Et Jésus lui dit quoi ? Tes péchés te sont pardonnés. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a les scribes qui sont choqués parce qu'il prétend pouvoir pardonner. Alors ça, c'était un blasphème, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Donc ils ne pouvaient pas comprendre et ils n'avaient pas compris que Jésus était aussi Dieu incarné. Et puis la deuxième chose, c'est que comment il peut oublié de guérir ce paralytique. C'est quand même incroyable, ça. C'est inimaginable. Alors, il connaît les pensées. Il connaît les pensées des hommes. Et il leur dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire, lève-toi et marche ? C'est une bonne question. Ça remet en question le pourquoi de sa venue. Alors peut-être que certains d'entre nous, si nous étions dans la même situation, on aurait du mal d'accepter la chose. Bah oui, on serait peut-être choqué, parce qu'on s'attend toujours à d'abord à être guéri, bien évidemment. Quand on demande à Dieu de nous guérir ou de guérir quelqu'un que nous connaissons, de proche ou simplement qu'on connaît comme cela, c'est parce qu'on veut que Dieu guérisse cette personne. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance de penser que Dieu est à notre service et qu'il doit réagir à nos exigences. Et souvent, dans nos prières, moi le premier d'ailleurs, hein, quand on fait les réunions de prière le mardi, on dit à Dieu qu'il doit guérir telle personne et on lui dit aussi « tu dois le guérir de telle façon ». Ah bah oui, parce que c'est évident qu'il ne sait peut-être pas comment il faut faire, hein. Ben oui, il n'y a que nous qui savons, hein. Nous, on a la sagesse. Eh ben non. Eh non, malheureusement. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une personne que certains ici connaissent, qui s'appelait Françoise Januel. Alors, cette personne, durant 11 ans, a eu au moins 5 cancers différents. Et à chaque fois, on priait pour qu'elle guérisse. Et à chaque fois, il y avait une rémission, mais vraiment étonnante. Alors des fois, cette rémission pouvait durer quelques mois, parfois un an et demi. Et puis, patatrac, un autre cancer arrivait. 11 ans, ça a duré. Nous, on voulait qu'elle guérisse. Mais on voulait qu'elle guérisse définitivement, bien entendu, pas simplement du cancer qu'elle avait sur le moment. On ne voulait pas qu'il y en ait un autre qui arrive. Ben oui. Puis un jour, elle nous a quittés. Et là, c'était définitif. Alors ça a été difficile. Moi, je lui rendais beaucoup visite. Je m'arrangeais toujours pour venir avec une sœur différente. Comme ça, ben, elle voyait du monde. Et j'avais pris l'habitude d'aller la voir. Et c'était le jour où je ne pouvais plus le faire, ça a été dur. Alors, en réfléchissant à cette situation, je me suis posé 3 questions. La première, c'est pourquoi Dieu a laissé Françoise souffrir de tous ses cancers durant 11 ans ? Ça paraissait tellement injuste, tellement difficile à supporter. Mais elle dit qu'il la faisait souffrir, mais vous savez, les traitements parfois font encore plus souffrir. Parce que les rayons plus la chimio, je peux vous dire que c'est des cocktails Molotov. Hein. C'est terrible. Elle avait des brûlures au bout de toutes les extrémités, les doigts de pied, les mains. C'était l'horreur. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi n'est-elle pas morte avec le premier cancer ? Ça lui aurait évité de souffrir autant avec les autres. Et pourquoi, la troisième question, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas guéri de manière définitive? On a le droit aussi de se poser cette question. Alors, humainement, on ne comprend pas tout. J'allais dire, heureusement, on n'est pas Dieu, et on n'est pas capable de tout comprendre. Il y a des mystères, et les mystères doivent rester des mystères, c'est comme cela. On doit l'accepter. On veut toujours expliquer, on veut tout expliquer. On veut toujours savoir pourquoi. Par contre, on oublie parfois que les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Il faut savoir qu'à chaque fois que François se retrouvait à l'hôpital, et je peux vous dire que ça a été des dizaines et des dizaines de fois pour faire les rayons, pour faire de la chimio, pour voir où en était son état, faire des IRM, des radios, etc., des scanners. Ça n'a pas arrêté durant 11 ans. Eh bien, pendant ce temps, elle témoignait sa foi auprès des médecins. des infirmières, de sa voisine de chambre, parce que c'était souvent à deux dans la chambre. Eux-mêmes, les médecins étaient étonnés des rémissions qu'elle a vécues. Elle avait des cancers où elle n'aurait pas dû s'en sortir, et pourtant elle s'en sortait. Elle partageait sa joie. Il y avait une joie en elle qui émanait d'elle. Elle espérait en Dieu à des jours meilleurs. Je crois que Dieu a permis tout cela parce qu'elle était un extraordinaire messager, extraordinaire témoin, et que ça faisait partie du plan de Dieu. Elle partageait cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile. La guérison est essentiellement un moyen que Dieu a utilisé, toujours utilisé, pour amener les hommes au salut. Ça n'a jamais été le but. Voir au verset 6 de Matthieu 9, suite à la réaction que les scribes, qui étaient choqués, bien entendu, il dit à la fin, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. » C'est là qu'on voit que la priorité du Seigneur, ce n'était pas de guérir, mais d'abord de sauver la personne. Le salut éternel de la personne, c'est ça qui est essentiel. Et souvent, on l'oublie. On fait passer avant des choses qui sont moins importantes aux yeux de Dieu. Même si pour nous, c'est important de guérir, même si pour nous, c'est important de voir notre épouse, nos enfants, nos parents ne plus souffrir. C'est évident, on est tous pareils, on a envie aussi qu'ils ne souffrent plus, qu'ils soient guéris. Mais la priorité pour Dieu, c'est le salut éternel de chaque âme. La cinquième question, c'est la guérison est-elle un signe de la grâce ? Alors, bien évidemment, et heureusement, la Bible ne parle pas que de maladie, d'épidémie, de mort ou de jugement. Loin de là. Et merci Seigneur. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour abolir sur la croix l'acte de jugement qui nous condamnait. Et c'est ça qu'il faut regarder. Dans l'œil, la vision, le but, c'est ça qu'il faut voir. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant sur la croix. Et puis Jésus a eu la victoire sur le péché et sur les puissances démoniaques et leurs conséquences, c'est-à-dire la mort. Vous pourrez lire chez vous 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Alors bien sûr, Jésus a vaincu la mort, il a remporté la victoire aussi sur la maladie, c'est vrai. Il a souffert comme le dit Ésaïe 53,4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ça, c'est aussi le message que je veux vous partager, parce que au-delà des difficultés et des souffrances que nous vivons sur terre, nous avons l'espérance de la vie éternelle en présence de celui qui est la source de la vie. Apocalypse 21,4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Alors, en attendant cet événement, Dieu continue de manifester sa grâce, sa compassion, sa bonté dans ce monde. Toute guérison est un signe de grâce de Dieu. C'est un don de Dieu, la guérison. C'est un don gratuit. Mais à la limite, il n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. C'est d'abord pour nous sauver, sauver notre âme. Tout cela est possible parce que Christ a vaincu la mort sur la croix. La sixième question, c'est, et la maladie dans tout cela ? La médecine, pardon, dans tout cela. La médecine. Ah, je voudrais quand même faire une petite parenthèse quand même, en rendant hommage, bien sûr, à tous les soignants. La parole de Dieu explique, dans plusieurs passages, comme les premiers chapitres de Genèse, le psaume 104, que Dieu a créé le monde de manière ordonnée. Tout a été créé par lui, comme le dit le psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont nombreuses, Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. La sagesse de Dieu a engendré un univers structuré qui lui permet d'être encore là aujourd'hui. Vous savez, les scientifiques disent que eux-mêmes que ce sont des lois qui régissent l'univers. Et c'est vrai, d'une certaine façon, vous enlevez une de ces lois qui les régissent, l'univers ne pourrait pas exister tel qu'il est. Si Dieu avait oublié une seule, peut-être même déplacée simplement d'une virgule, les lois, eh bien, nous en serions encore au chapitre 1, verset 2 de la Genèse. Hein ? Ce serait un monde informé vide. Le tohu-bohu, vous savez, en hébreu, c'est tohu-va-bohu. Ça veut dire, en fait, qu'il y a le chaotique qui n'est pas organisé. Alors, on l'a lu au début de ce partage, que dans Genèse 1, 26, Dieu a créé l'être humain à son image. Ce qui suppose une intelligence, ce qui suppose une capacité de réfléchir. Il a la responsabilité de gérer comme la création. C'est le chapitre 2, verset 15. La cultiver et la garder, cette nature. Il a eu la responsabilité de nommer les créatures. Genèse 2, versets 19 et 20. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est un petit peu raté. Le péché est venu entre-temps. Et la gestion de la nature n'est plus conforme à ce que Dieu voulait au départ. Ça ne correspond pas du tout à ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est évident. On l'a vraiment dominée, cette nature. On ne l'a pas gérée, on l'a dominée. Et d'une façon tyrannique. Et la nature est en train de mourir autour de nous. On le sait. Vous savez que le confinement a permis à la Terre de se reposer un petit peu. Pendant deux mois, pendant deux bons mois, la nature, comme les oiseaux, on les revoyait venir. Je n'ai jamais vu autant d'insectes pour venir depuis Saint-Étienne. Ça fait des années que je viens ici, il n'y avait pratiquement plus rien sur les pare-brises. Et là, quand on est venu, les pare-brises étaient criblés d'insectes. Qui devait faire certainement le bonheur des oiseaux, qu'on entendait, il n'y avait plus de bruit, le ciel était beaucoup plus limpide, c'était extraordinaire. Pendant deux mois, la Terre a respiré, et ça y a fait du bien. Alors c'est peut-être à notre détriment, mais vous savez, des fois on cherche les parasites, mais le plus grand parasite c'est l'homme. Pour la Terre c'est l'homme, malheureusement. Mais ça c'est les conséquences du péché. C'est pas ce que Dieu voulait de nous, bien entendu. Il n'a pas voulu créer un parasite. Il a voulu créer quelqu'un qui gère avec harmonie, avec bonté envers tout ce qui l'entourait. Mais malheureusement, l'homme a été dévié. Il y a eu une torsion dans la façon de gérer les choses. Cette intelligence naturelle que Dieu a donnée aux humains permet de réfléchir sur le fonctionnement du monde qui nous entoure. Cette capacité de s'intéresser à ce qui nous entoure, ça s'appelle la science, bien entendu. Et ça permet aussi de trouver des remèdes pour soigner. Je n'avais pas perdu mon fil quand je vous ai parlé de la médecine. Dieu a créé une intelligence qui a permis aussi à des hommes et à des femmes de réfléchir pour guérir, pour soigner. Vous savez, si la médecine permet de soigner beaucoup de maladies, et je pense que j'allais dire comme le Covid-19, oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui s'en sont sortis, on leur a permis quand même de respirer, il y avait les machines qui étaient là pour les aider, et on trouvera probablement un remède définitif, un vaccin peut-être, je l'espère en tout cas, comme on trouve aussi pour les grippes plus classiques, puisque c'est une grippe. C'est parce que Dieu l'a rendu possible, parce qu'il a mis dans l'homme cette capacité qui est en lui. Faisons l'homme à notre image. Donc il y a aussi cette capacité que l'homme a, que Dieu a donnée dans l'homme. Alors même si notre intelligence est obscurcie, même si notre intelligence est dévoyée, même si elle est tordue depuis le péché, il y a encore des choses qui sont justes et bonnes que l'homme est capable de faire. Il n'y a pas que des mauvaises choses, bien évidemment. Et ce sont des capacités naturelles. Et ces capacités naturelles, ce sont des dons. Hein. C'est aussi des miracles, d'une certaine façon. On cherche toujours des miracles extraordinaires. Hein. Il faudrait s'envoler dans le ciel, il faudrait tomber par terre, il faudrait faire... Mais le fait de respirer, le fait d'avoir des capacités de penser, de réfléchir, d'aider les autres, c'est aussi des dons, c'est aussi des miracles. Les choses naturelles que Dieu a données en nous sont aussi des miracles. Quelle attitude devons-nous avoir en tant que croyants face à l'épidémie ? Alors la première chose à faire, on le trouve dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Face à une épidémie, qui est un signe de jugement d'une certaine façon, il convient de le louer, parce que, comme le dit Apocalypse 19, 2, ses jugements sont véritables et justes. Vous savez, je suis dans un milieu, donc l'aumônerie, c'est un milieu catholique, principalement. Et j'ai pas mal de collègues, enfin pas toutes, heureusement, mais enfin quelques-unes, me disent, mais Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé. Tout le monde ira au paradis. Déjà, le paradis, il n'est pas au ciel, il est terrestre, mais tout le monde sera sauvé. Ah bon ? Je leur dis, je suis désolé, moi, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Parce que c'est de l'injustice. L'équité, c'est justice et amour, ensemble. Si Dieu juge les hommes, c'est parce qu'il a de l'amour pour eux. Ben oui. Ses parents qui ne donnent jamais... Enfin, j'allais dire une correction. Maintenant, il ne faut surtout plus donner de fessine ni quoi que ce soit, mais une punition. Allez, soyons plus... Voilà. Actuelle, une punition. Ben, si on ne fait pas ça, le gamin, il va faire n'importe quoi, il fera la loi. Ce sera le maître. Il y a combien d'enfants rois aujourd'hui ? Les parents ne savent même plus comment faire pour les reprendre. Et puis ces enfants seront des futurs adultes qui seront incapables de se gérer eux-mêmes et qui seront compliqués à vivre. Justement, les parents doivent être là parce qu'ils doivent les redresser parce qu'ils les aiment et qu'ils ont envie que plus tard, ils soient des adultes qui soient responsables, des adultes qui apportent quelque chose de bénéfique aux autres. Mais si on laisse un gamin faire n'importe quoi, il ne sera pas bénéfique aux autres. Il sera même pas forcément bénéfique pour lui-même. Et Dieu est pareil. Dieu a cette capacité, c'est de dire, ben voilà, maintenant ça suffit, je tranche. Ben oui, je suis désolé, il tranche. Difficile ça de supporter ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et un jour, on passera tous devant Dieu. Il faut le savoir. On aura tous des comptes à rendre. La justice est une valeur biblique. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour sa justice, même si on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, encore une fois. N'essayons pas de tout comprendre. On ne peut pas. Nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes pas le Créateur. Nous ne pouvons pas tout comprendre. On peut louer le Seigneur aussi pour la façon dont il a manifesté sa gloire, sa grâce, pardon, envers nous à travers Jésus-Christ, de sorte que nous n'avons plus rien à craindre, même la mort. La mort, c'est un passage d'un mode de vie à un autre mode de vie, d'une vie à une autre vie. Si vous y croyez, on ne peut pas avoir peur. Si on y croit, on ne peut pas avoir peur de la mort. On peut aussi, bien sûr, le louer et le remercier pour toutes les guérisons qu'il opère dans les hôpitaux, par la main des médecins et des infirmières, et pour la force et l'intelligence qu'il procure au personnel soignant. C'est lui qui a donné cette capacité au personnel soignant de pouvoir nous soigner, nous guérir. Tout le monde n'est pas mort du Covid, au contraire, il y en a beaucoup qui s'en sont sortis. Il y en a qui l'ont eu, puis avec peu de manifestations. Voilà. Mais les soignants, il faut vraiment penser à eux, avec tout ce qu'ils ont fait. Nous pouvons aussi maintenant être témoins de l'Évangile. Si les épidémies sont des signes de jugement de Dieu, il est de notre responsabilité de partager la bonne nouvelle de l'Évangile et de témoigner de celui qui est l'auteur de ces signes. Lorsque Dieu a envoyé les plaies sur l'Égypte, il a demandé à Moïse d'aller voir le Pharaon pour lui expliquer la raison de ces manifestations. Évidemment, sans ces explications, Pharaon aurait pu croire que c'était ses dieux à lui qui faisaient les manifestations. Il était important que Pharaon prenne conscience que le seul vrai Dieu était l'auteur du jugement qui était sur l'Égypte. L'épidémie met le monde, ou a mis le monde, je dirais, devant la réalité de la mort. Tout à l'heure, il y a une prière un peu dans ce sens, et c'est vrai. Le confinement bouleverse, ou a bouleversé, nos habitudes et nous a obligés à revoir nos priorités. Peut-être que ça fait aussi réfléchir certains non-chrétiens, et je l'espère en tout cas, sur le sens de la vie, sur le sens de pourquoi nous sommes sur Terre. Vous savez, c'est souvent dans ce genre de situation, on ne voit que le côté négatif, mais aussi des choses positives. Et il est évident, et il est certain, et je pense qu'il faut prier aussi dans ce sens-là, que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ça leur est permis aussi de se tourner vers lui et de lui poser des questions. De dire, Seigneur, pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de malades, etc. Et puis pour terminer, je dirais qu'on peut aussi apporter de l'espérance. C'est peut-être aussi l'occasion, dans ces temps, bien sûr, d'inquiétude du moment présent, et puis de l'appréhension, je dirais, du futur, de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence pour que lorsque nous serons définitivement sortis du déconfinement, parce que le déconfinement, ce n'est pas être sorti du confinement, c'est une phase intermédiaire, hein, on est d'accord, hein. C'est pas encore fini. Que nous trouvions les mots justes, les attitudes justes pour annoncer la bonne nouvelle à ceux de notre entourage qui ne connaissent pas Dieu, à ceux que le Seigneur mettra sur notre route. Que le Seigneur nous aide tous à garder ce que nous avons acquis durant ce confinement. À Saint-Étienne, on s'est rendu compte, et plusieurs en ont été conscients, que le fait de ne pas pouvoir se voir de près pendant plus de 2 mois, on ne se voyait que par Zoom, on faisait les réunions, les cultes par Zoom. Au début, c'était quand même un peu compliqué, on disait, bon, oh là là, on ne peut pas serrer la main à la personne, on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas la prendre dans ses bras. C'est... Mais finalement, Dieu, par cette difficulté, nous a fait connaître une autre dimension de la communion fraternelle. Comme un fraternel, c'est facile de l'avoir quand on voit les gens. Ils sont proches de nous, ils sont à côté, donc c'est très facile. Mais par contre, s'ils sont loin, on est obligé d'élever un peu le niveau de notre fraternité, non pas de la laisser au niveau humain, mais la faire passer par le Saint-Esprit, par le lieu céleste. Et là, tout à coup, on découvre une nouvelle dimension de la foi, une nouvelle dimension de la communion fraternelle. Alors peut-être que vous-même l'avez remarqué, ressenti, mais je crois que c'est important. Donc il est évident que ce genre d'événement, il est évident que ce genre de difficulté peut nous faire grandir finalement. Vous voyez, ce n'est pas que négatif, hein. Et je crois qu'il faut regarder les choses aussi de manière positive et remercier le Seigneur aussi, quelque part, pour ces expériences particulières et compliquées, parce que justement, il nous aide à grandir à l'intérieur. Je vais terminer, je vous laisse ces 2 passages que vous lirez chez vous, c'est Romains 12, versets 10 à 16, et Romains 13, versets 8 à 10. Je vous remercie pour votre attention. Amen.